we're all shaped by our history in ways we know, in ways we don't fully understand, and in ways that we're not aware of at all.
That's better. Yeah, good. Thank you. London and Paris, Europe's two greatest modern cities, bear the imprint of their history. As we know them today, they're largely 19th century cities. Both were very proud of their status. Jules Vallès, the French revolutionary, called them the two faces of civilization. And they developed in very, very rapidly in the 19th century, but in very different ways. Their growth came mostly from immigration, because the high death rate in cities meant that the population did not reproduce itself. Immigration came first from rural areas of their own countries, but also too from outside. In the case of London, the main element was from Ireland. Ireland was part of the United Kingdom, but it was a separate country ethnically and culturally. In the case of Paris, immigrants from all surrounding countries. Most were economic migrants, but there were also in both cities political asylum seekers from the late 18th century onwards. Germans, most famously Karl Marx in both cities, Poles, Italians, and also in London, French asylum seekers, the first being the famous Huguenots, the Protestants, and later refugees from all of France's successive political crises. But the largest group of asylum seekers, who at the same time were economic migrants in a sense, were of course Jews fleeing from persecution in the Russian Empire in the 1890s and 1900s. And they had a major impact in both London and Paris, who for the first time acquired sizable and visible populations from non-Christian backgrounds. Both cities saw a process of social segregation, broadly from a wealthy West side via a commercial central district to an industrial and working class East side. As you probably know, the conventional explanation for this is that prevailing westerly winds blew pollution towards the East, so richer people settled in the West. Migrants, of course, mostly went to the poorer and cheaper areas in the East. My favourite example is a place of worship in London's East End, which was built by French Protestants, which then became a synagogue in the late 19th century and is now a mosque. So the same building served three religious communities in succession. However, there were also fundamental differences, and this has huge importance still today. Paris was confined by city walls, which were not demolished until the 1920s. And its boundaries today are still defined administratively and socially by the line of the old walls, which is now the Boulevard Périphérique. London had no clear boundary, indeed has no clear boundary really, and was able to spread much more freely. Also, London didn't have a single authority. It had 38 authorities, government authorities in the 19th century, and today still has many different municipal authorities. Paris, in its time of development, had a single authority, the Département de la Seine, with its prefect and its Conseil Municipal. So London, both for administrative and for physical reasons, became much bigger, much looser, extended much more widely than Paris. As one French essayist wrote in the 1860s, London is not really a city. It's an agglomeration of boroughs, villages, countryside, plains, meadows, and gardens. It's not an entity. Paris, of course, was and is an entity. The growth of the Paris banlieue began in the 1850s, a crucial period of change, and continued and even increased for more than a century afterwards. When Napoleon III and Baron Haussmann began replanning the city in the early 1850s, they deliberately moved part of the working class population and manufacturing industry out of the center of the city and towards the edges. What were then the suburban villages of Javel, Montrouge, Ménilmontant, Belleville, and Montmartre, and later outside the city walls to Saint-Denis, Pantin, Ivry, Billancourt, and so on. Many slum districts were destroyed and replaced by more expensive apartments or by public buildings. This was begun by Haussmann, but continued for generations. A fairly recent example is the Centre Pompidou, which was built on the site of one of Paris's most unhealthy slums. So the poor were deliberately moved out of the city centre into what has been called by one historian of Paris the first big social ghetto in urban history. This sharp distinction between city and banlieue did not happen in London. London, loosely administered, market-driven, sprawled into the surrounding villages, and so land, buildings, rents were cheap and stayed cheap for more than a century. Even working-class London families could live in houses. Middle-class Victorians hated being crowded into the city, and which they saw as dirty and dangerous. They wanted space, freedom, family life, domestic privacy, in short, what came to be called suburbia. The difference is clear. The Paris working class was moved into the banlieue. Much of the London middle class wanted to move into the suburbs. Underground and suburban railways were developed in London 40 years before in those in Paris, and so people moved out. Greater London became a social mosaic, whereas Paris became a series of concentric semicircles, a wealthy West Centre, as today, the 16e, 7e, 8e arrondissement, even the 17e in part, surrounded by a poorer and working class semicircle in the north, east, and the south, and then outside that again, the true banlieue, which became politically radicalized as the ceinture rouge, the red belt. In the 1950s, 60s, and 70s, when the remaining poorer areas of the center of the city, most obviously the Marais, which had been a poor and an immigrant area, was modernized and gentrified, the tendency was still the same. To reduce the population and move most people out from the centre. And when this happened to some extent to the working class districts of northern, eastern and southern Paris, the 13e, 14e, 18e, 19e and 20e arrondissement, large areas of which were simply flattened, although social housing was built, the overall result was nevertheless to reduce the population and to move the poorer population further out from the centre, outside the area which had previously been bounded by the city walls and is now bounded by the boulevard périphérique. So the centre of the city becomes steadily more middle class and the suburbs steadily more working class, places like Sarcelles, Bobigny, Créteil, and so on. London, too, has a Victorian legacy, but a different one, as I've suggested. It has problems of the inner city, not of the banlieue like Paris. But London's social differences tend to be less clearly delineated in spatial terms. A remarkable thing about London is how class differences have been perpetuated geographically, but often on a small scale. Not only does the West End remain different from the East, although the East End is increasingly gentrified. But a recent study showed that quite small areas of a few streets or blocks that were poor in the 19th century remain relatively poor today, even when both then and now they were surrounded by richer areas. This is because when slums were demolished in the late 19th or early 20th centuries, they were often replaced by what we would now call social housing, first provided by charitable bodies and later by local government. And so although London is certainly highly stratified in socioeconomic terms, with extremely rich districts in the old West End, far more obviously opulent than any part of Paris, there is not the same stark distinction between centre and banlieue. London is much more a mosaic, a mixture. It has a more organic, it seems to me, a more organic social structure. This physical and geographical structure of the two cities, or of the two conurbations, really, affects the way in which new arrivals, whether from inside or outside the country, are able to relate to and participate in economic and social life. Are they more likely to find themselves in a large, homogeneous, and fairly distant satellite suburb of residential apartment blocks, or in a smaller, relatively cheap enclave inside the city? Of course, geography is not the only issue. At least as important is the structure of the labour market, which there's no time to go into, but environment affects opportunity, participation, and integration. Though the experiences of all immigrants have certain common features, the most obvious include the experience of discrimination, the creation of self-help organisations, whether religious, social, or political, the existence of some sort of diaspora network with links to the country of origin, the ability and desire to work hard, and for some, achieve rapid social mobility. So those are common experiences. There are still significant differences, as I've tried to indicate, between Paris and London. A significant difference, which I'll only touch on very briefly, is chronological. And in just a sentence, France became an immigrant city much earlier than London. Immigration into Paris was important from the 19th century onwards because of the very low French birth rate, which drew in immigrants from many parts of Europe, and then later, particularly after the First World War, from French colonial possessions in North Africa. Britain had very low immigration until the 1950s, and even then it continued at quite a low level until the 1990s, when it suddenly accelerated very rapidly to its present level. And so one might say that Paris is much more accustomed to a diverse population. London has become accustomed to it, but quite recently and very rapidly. So I think one could say that the demographic situation in London is much more dynamic and fluid than it is in Paris for that reason. A third thing I'd like to touch on is politics. And here I think there are three major issues. First, the effects of the Algerian War on the Paris region in the 1950s and 60s, for which there's no equivalent in the British case. Second, the impact of the world situation today. And third, the different policies followed by Britain and France concerning what we generally think of as pluralism or multiculturalism. These are very big and important issues, but they're also very well known. So I think there's no point in my going into them in detail. In any case, I think my colleague is going to discuss some of them much more thoroughly. But first, the Algerian War of the 1950s and 60s had a major impact. And it's been suggested that racial tension in France was principally between Algerians and French rather than between immigrants and French. That may have disappeared now. I don't know enough about Paris to say. But there was no equivalent in London of that kind of conflict within the city. The second point, the impact of the world situation today, which I would say is rather similar for the two countries and the two cities, the roles played by the British and French governments in Afghanistan, Libya, Mali, and Syria are broadly comparable, and the effects, therefore, are broadly comparable within the country. The third point concerns policies towards multiculturalism, or what is often called communitarianism in the British case, and in the French case, what I suppose one could call assimilationism or simply republicanism, which is often how it's described. In Britain, the multicultural approach draws on very traditional ideas of individual liberty, religious pluralism, which goes back a long way, of course, to the 17th century, and also on defining identity by symbolic loyalty to the crown, for example. It assumes that official acceptance of cultural differences, and indeed the perpetuation of these differences through the existence of faith schools, Catholic, Jewish, now Muslim, as well as Anglican, Methodist, and so on. Okay, that the perpetuation of these differences through the education system will nevertheless eventually lead to a willing and harmonious integration. French policy has used fairly traditional secularist ideas, though Philippe will, I think, explain how these have been changing, to create or insist upon a common republican citizenship in which ethnic or religious differences are obscured, confined to the private sphere, and eventually perhaps effaced. We probably all have a preference for one or the other of these approaches, but it would be difficult to say which has been more successful or perhaps more unsuccessful in a situation today which is far more difficult and complex than when these policies were originally devised. In Britain, influential voices in recent years have criticized multiculturalism, not because it doesn't create harmony, or at least so critics suggest, but it entrenches antagonism. Trevor Phillips, the former head of the Race Relations Commission, has criticized the use of public money to favor non-elected community leaders and has warned of, I quote, sleepwalking into segregation. In France, on the other hand, republican secularism seems to have aggravated resentments. Both countries have seen radicalization within their Muslim communities, usually affecting young men born in the country, to whom religious extremism gives a new and glamorous identity. My fourth and final theme is that of voluntary non-governmental activities. In both countries, this has a very long history. Centuries ago, charitable work was largely linked with religious bodies, and so to some extent it remains, and some of you here represent that tradition. Two huge political events modified this. In Britain, a long time ago, the Reformation of the 16th century transferred care, or began to transfer care for the poor, from the church and to local authorities under the Elizabethan Poor Law, a system that continued for four centuries and which had no real equivalent in any other country. In France, the Revolution similarly destroyed the charitable activities of the Catholic Church, but without creating a state system comparable with that of Britain. As the British population grew very rapidly in the 18th and 19th centuries, especially in the cities, new initiatives were created, often with a religious motive, to fill the gaps in the poor law. Hence a huge range of bodies aiming at the care of orphans, the treatment of the sick, the protection of animals, the suppression of alcohol and other vices, the rehabilitation of criminals, the education of the poor, and so on. A whole parallel set of private, voluntary, charitable institutions which supplemented, or in some senses provided services which the state did not. Many of the leaders of these organizations became famous, and the organizations themselves became very large and increasingly professional. Both the established Church of England and dissenting sects, Methodists, Unitarians, Quakers, and so on, were very active in charitable work, which arguably reached a peak of influence at the end of the 19th century, though much of it still continues. The Catholic Church in France after the Revolution was active through certain religious orders involved in education and social work. Sœur Rosalie, after whom a street is named in the formerly very poor 13th arrondissement, ran a network of social organizations in the 1840s and 50s with what one historian calls a charismatic power and a single-minded devotion that made her a legend. And Catholic charity, of course, continued and continues. However, from the 1880s in France and from the 1900s in Britain, the state began to greatly extend its own role. And after the Second World War, as all across Europe, welfare states reduced the role of voluntary organizations to a secondary position, and by doing so tended to secularize social work and probably increase the secularization of society, one of the reasons for the decline in religious affiliation in Western Europe. So voluntary associations were left to supplement the huge activity of the state, and often to operate in the most difficult and deprived contexts which the state did not reach. A major and unexpected change here has been caused by immigration. whereas it had seemed that the decline of religious practice and belief was an aspect of modern urban life, at least in Western Europe. This is the famous secularization thesis associated with modernity. The arrival of people with different cultural assumptions rejuvenated religious life, whether Hindu, Sikh, Muslim, or Christian. Evangelical and Pentecostal Christianity were noticeably boosted by immigrant communities, especially in London. An extraordinary figure, it seems to me, is that 57% of all young British churchgoers live in London. So the most modern part of British society is also contains its most religious element. As in the past, newcomers find in religious activity a sense of community, of mutual support and identity that established populations may no longer need. To summarize, and then I'll finish, we are shaped by our history, as we see when we look at London and Paris today. When newcomers arrived, generation after generation fitted into established structures, social, geographical, cultural. Successive groups moved into the same districts, were eventually integrated, and then were replaced by new groups. Remember the Huguenot church that is now a mosque. One could find similar stories about the Marais or Belleville. But as early as the mid-19th century, London and Paris began to develop in an importantly different way. That was my first theme. London becomes a huge mosaic of socially and ethnically varied districts. Paris became far more clearly divided between a centre and a periphery, the banlieue. My second theme was chronology. Paris became a city of immigrants much earlier than London, both immigrants from European countries and especially from North Africa, whereas mass immigration took off in Britain very recently in the 1990s, so its social and cultural patterns today are less fixed and more fluid. A third theme is politics, a very complex subject that includes history, the present-day world situation, and the different choices that each country made between encouraging pluralism and encouraging a more assimilationist and secular approach. And then my fourth and final theme, which I merely touched on, is that of the history of voluntary organizations, especially religious ones, in which I pointed out that these have been given new life and a new purpose by immigration. And as we started a little late, and so I started a little late, I'm just going to stop there and thank you all for your attention. And hand over to my...
Thank you. Thank you very much, Robert, for your lecture. I'm so sorry. I'm doing my conference in French. Well, je suis très heureux de vous accueillir ici dans le cadre du groupe Société, Religion et Laïcité sur une conférence qui est extrêmement importante. Qui porte sur les problèmes d'articulation entre le politique et le religieux pour ce qui a trait à l'action sociale. Et si Samuel Everett a organisé cette conférence, c'est parce que nous sommes confrontés à une question véritablement saillante qui nous interroge sur les relations actuelles entre la sphère politique et la sphère religieuse. Pour ce qui concerne la France, et c'est ce que je vais essayer de vous montrer, il n'en a pas été toujours de même. Cette nouvelle articulation, ces nouvelles frontières entre le politique et le religieux sont finalement liées à une époque contemporaine qui a fait évoluer notre système de laïcité. Et c'est sur ce point, si vous voulez, que je voudrais intervenir dans le laps de temps qui m'a été accordé. Alors... Je voudrais commencer par la phrase d'un sociologue français qui nous a quittés il y a peu, Émile Poulain, qui, dans un texte des années 1990, disait, de manière tout à fait surprenante, « En Europe, nous sommes tous laïcs ». refusant précisément d'attacher le mot laïcité à la seule configuration française. Il voulait signaler que les pays européens ne sont pas unis seulement par des solidarités économiques, mais liés aussi par une commune façon d'habiter le monde, marquée partout en Europe par un détachement à l'égard de la structure religieuse du monde. Cette sortie du religieux, qui advient entre le XVIIe et le XIXe siècle, opère sur le fondement d'un imaginaire de l'autonomie marqué par deux traits essentiels. D'abord, à partir du XVIIe, XVIIIe siècle, nous pensons le sujet autrement, et partout en Europe. Le sujet était hier considéré comme une créature de Dieu. Il devient, à partir du XVIIe, du XVIIIe siècle, son propre créateur, l'auteur de ses propres jours, disait Shakespeare. Évidemment, cela change sa relation, sa propre conception de l'univers. Il se concevait hier comme un être de devoir. À partir du XVIIIe siècle, il s'affirme à partir de la thématique des droits. Transformation de la figure du sujet, transformation aussi de la figure du pouvoir. Le monde d'hier est lié à une conception transcendante de l'autorité. L'autorité est produite par Dieu même, par la Providence, et doit, dans le droit, faire valoir la loi numineuse, faire valoir la loi religieuse elle-même. Nous n'en sommes plus là, à partir du XVIIIe siècle, où l'on s'aperçoit, bien sûr, que le religieux se sépare du politique, que le politique conquiert son autonomie, et que, bien loin de vouloir conduire les êtres sur le chemin du salut, et même sur le chemin de la vertu morale, il se contente désormais d'assurer dans l'ordre la paisible coexistence des libertés privées. Voilà ce qui fait l'Europe dans sa structure commune, une structure qui s'est séparée de la loi religieuse quelque part autour de 1700. Le problème, c'est que cette modernité politico-philosophique ne s'est pas inscrite partout de la même manière. Nous avons affaire à des institutionnalisations historiques différentes qui nous amènent souvent à séparer les pays du nord de l'Europe et les pays du sud de l'Europe, pour reprendre une division commode établie par un auteur anglais, David Martin, dans un ouvrage important autour de la théorie générale de la sécularisation. Dans les pays du nord de l'Europe, pays marqués par le protestantisme, se sont imposés des modèles de coopération. Alors bien sûr, le politique et le religieux sont séparés du point de vue de la norme, mais du point de vue des institutions, le politique et le religieux demeurent encore en situation d'articulation mutuelle. C'est le cas en particulier en Allemagne, avec le système de Partnerschaft, le système de partenariat. C'est le cas aussi pour ce qui concerne l'Angleterre, avec le maintien, avec la perdurance d'un système de confessionnalité faible. Rien de tel dans les pays du sud de l'Europe qui ont tous été marqués, confrontés à la structure catholique, qui ont tous été marqués par la tentation de la séparation. Tentation de la séparation en Italie à la fin du XIXe siècle, tentation de la séparation au Portugal dans les années 1910, tentation de la séparation en Espagne, dans les années 1930, et puis tentation réussie de la séparation dans la société française à partir de la Troisième République, 1880-1905. Séparation de l'Église et de l'État venant redoubler la disjonction entre le politique et le religieux. Alors la question que je voudrais poser ici, dans le cadre de cette introduction, est la suivante. Est-ce que cette institutionnalisation juridique qui naît dans les années 1880-1905, s'est encore maintenu tout au long du XXe siècle. Est-ce que nous sommes aujourd'hui encore en France dans un modèle de séparation entre d'un côté l'État et de l'autre les communautés religieuses ? Alors cette question est une question générale, mais qui s'articule avec la problématique du colloque. Car pour ce qui concerne la France, nous allons nous apercevoir probablement tout au long de la journée que les communautés religieuses au niveau local sont très souvent en lien avec les autorités politiques municipales. Et si elles sont en lien avec les autorités politiques municipales, c'est probablement parce que notre modèle de la laïcité française est beaucoup moins séparatiste qu'il ne le fut au début du XXe siècle. Je voudrais donc essayer de vous montrer que notre modèle de laïcité a évolué. En procédant, comme le disait le politiste norvégien Stein Rokkan, par une remontée diachronique. Essayez de prendre le modèle en ses débuts, très rapidement, vous montrer ensuite comment, dans les années 1960-1970, il a été confronté à l'irruption de ce que le sociologue allemand Ulrich Beck appelle une seconde modernité, appelant, et ce sera la troisième phase de mon exposé, une recomposition de notre modèle originel. Alors essayons tout d'abord de rappeler très rapidement ce que fut, pour ce qui concerne la France, la laïcité des origines. Cette laïcité des origines, elle est bien caractérisée par un terme qu'on trouve dans le programme qui vous a été donné et que notre ami Samuel Everett met en avant. Struggle between religion and politics. Une lutte entre le politique et le religieux. La remarque est juste. Bien sûr, le régime juridique initial de la laïcité comporte des traits libéraux, je vais en dire quelques mots, mais il se construit principalement sur le fondement d'une volonté de rupture avec le cléricalisme catholique. Je voudrais essayer de le montrer à partir de deux points. Tout d'abord, présenter très rapidement le programme culturel des Républicains, ceux qui mettent en place la laïcité française des origines, et puis vous dire quelques mots ensuite de leur programme juridique. Pour ce qui concerne le programme culturel, il y a manifestement une rupture avec ce qui s'était mis en place, avec la culture, l'éthos dominant, qui avait triomphé dans les premières décennies du XIXe siècle. Dans les premières décennies du XIXe siècle, on ne conçoit pas que l'éthique sociale puisse être séparée de la règle religieuse. C'est ce qu'exprime le modèle concordataire mis en place par Napoléon Bonaparte en 1801-1802 et qui va être prolongé jusqu'en 1880-1905. Eh bien, les républicains qui arrivent au pouvoir dans les années 1870 remettent en cause cette idée-là. Et ils estiment que nous pouvons désormais construire un ordre social indépendamment d'une morale religieuse. C'est ce qu'on appelle la philosophie de la morale indépendante. Philosophie de la morale indépendante, indépendante vis-à-vis d'une morale antécédente qui trouverait ses principes dans la transcendance, qui trouverait ses principes dans la divinité. Alors, pourquoi cette transformation ? Pour deux raisons. Il y a d'une part une raison philosophique, c'est que les républicains pensent la morale comme étant le fruit d'une ascèse intérieure. C'est par un retour de soi sur sa propre conscience, par une sorte de dialogue de soi-même avec sa propre subjectivité, qu'on arrive à construire une éthique du devoir. Bien sûr, l'expérience religieuse peut avoir sa part, mais dans la pensée républicaine, l'expérience religieuse ne vient jamais fonder la morale. Elle vient, comme chez Kant, car Kant joue un très grand rôle dans l'élaboration de notre système philosophico-politique, elle vient, comme chez Kant, simplement la couronner. L'expérience religieuse couronne sans doute une expérience morale, jamais dans la pensée républicaine, elle ne la fonde. Et puis il y a un deuxième trait qui explique pourquoi les républicains veulent mettre en place une morale indépendante. C'est qu'ils sont confrontés à une église catholique qui ne s'est pas ralliée à la modernité libérale et qui continue tout au long du XIXe siècle à nourrir, à à cultiver la nostalgie d'un ancien régime tout entier marqué par l'hétéronomie. Si l'on veut construire la cité des esprits émancipés, comme le dit Sainte-Beuve, il faut d'abord se séparer d'une Église catholique qui refuse de jouer le jeu de la modernité politique. Voilà donc un programme culturel qui se dessine et qui appelle la République à construire un régime de séparation. Un régime de séparation qui va prendre les traits d'un programme juridique que je voudrais vous rappeler en deux secondes. En 1905, se met en place en France la loi fameuse du 9 décembre, qui, pour dire les choses très simplement, comporte au fond deux aspects principaux. Le premier aspect, trop souvent ignoré, c'est que notre laïcité française repose sur un principe de liberté. Alors, il y a eu tout un débat en 1904-1905 sur l'étendue de la liberté qu'on devait laisser aux croyants. C'est finalement la version libérale qui l'emporte, avec cette idée que chacun doit pouvoir cultiver ses propres directions spirituelles, mais plus encore, que chacun, à l'intérieur de son Église, peut s'organiser comme bon lui semble, communiquer comme il le souhaite, à l'intérieur et à l'extérieur des frontières nationales. Contrairement à la logique concordataire, se met en place en 1905 une logique de la liberté des cultes, très étendue pour ce qui concerne, en tout cas, la société française. Mais il y a autre chose de très important, et c'est sur ce point-là que je voudrais faire porter mon analyse pour la suite, qui va nous conduire jusqu'à la période immédiatement contemporaine. Le second point, c'est qu'à côté du principe de liberté, la séparation de 1905 définit aussi une très forte dissociation entre les églises et l'État. Les églises peuvent avoir un rôle au niveau des cultes, elles peuvent s'organiser librement au niveau de la société civile, mais il faut qu'elles entretiennent un rapport minimal avec la sphère politique, avec la sphère de l'État. Et tout est fait dans la loi de 1905 pour fixer les églises dans la société civile, dans la sphère qu'on appellerait aujourd'hui la sphère privée, en évitant que ces églises n'entretiennent une relation avec la sphère de l'État et au niveau local, avec la sphère des municipalités. Alors c'est un point tout à fait intéressant qui définit un modèle tout à fait particulier de la laïcité française, où l'on voit bien que nous sommes, contrairement à d'autres pays européens, et notamment aux pays du nord de l'Europe, marqués par une césure forte, par une rupture très accusée, entre d'un côté la sphère de l'État, qui fonctionne suivant le principe de la morale indépendante, suivant le principe prolongé de la raison commune, et puis la sphère privée, qui est réservée aux forces de la société civile, et en leur sein, réservée aux forces religieuses. L'idée, c'est qu'il ne peut pas y avoir de relations institutionnalisées entre le religieux et le politique, entre la sphère de l'Église et la sphère de l'État, pour ce qui concerne la régulation morale et sociale de nos sociétés. Alors, ayant dit cela, on a construit, si vous voulez, de manière un peu idéale typique, il faudrait nuancer ce que j'ai dit, mais je n'ai que 20 minutes, on a construit de manière idéale typique ce par quoi nous avons construit, nous en France, notre modernité laïque. Il se trouve que ce modèle va se trouver contredit bientôt, contrarié bientôt, par l'évolution de la morphologie sociale. C'est un modèle, celui que je viens d'expliciter, qui se met en place au moment de ce que Ulrich Beck, le sociologue allemand, appelle la première modernité. Or, dans les années 1960-1970, nous sommes confrontés à un changement civilisationnel. C'est que nous passons alors d'une première à une modernité seconde. Une modernité seconde qui va venir bousculer la façon dont nous envisagions jusqu'alors le rapport entre le privé et le public, la façon dont nous envisagions jusqu'alors le rapport entre l'Église et l'État. Qu'est-ce que c'est que cette seconde modernité? Je voudrais très rapidement, si vous voulez, la décrire à partir de deux traits. La seconde modernité qui s'impose un peu partout dans les pays européens, dans ces années-là, est marquée d'une part par la globalisation et d'autre part par l'individualisation. Les deux éléments que je viens de dire produisant d'ailleurs une dynamique de l'incertitude. Ce qui caractérisait la laïcité initiale, c'était qu'elle était portée par la certitude du progrès. Quand vous êtes confronté à une société qui est à la fois globalisée, ouverte à des flux extérieurs, et que d'autre part, au sein de la société, se mette en place un principe de plus en plus accusé d'individualisation des conditions, de subjectivation des conduites, vous êtes confronté dans le même moment à l'émergence, à l'expansion d'un principe d'incertitude jusqu'alors relativement inconnu. Alors essayons de reprendre ces deux points. Tout d'abord, le principe de globalisation. On pourrait multiplier les exemples. Flux économiques, flux juridiques, l'ouverture de la France à des normes que souvent elle n'a pas choisies, qui lui viennent du soft law international ou européen. Je voudrais m'arrêter, comme l'a fait d'ailleurs Robert à l'instant, sur la question de l'immigration. La société française est, en dépit des flux européens que Robert a décrits à l'instant, jusque dans les années 1960, en gros, une société homogène. Alors sans doute y a-t-il une guerre des deux France. Une guerre des deux France, mais qui s'opère sur fond de culture partagée. On peut s'opposer sur la place de Dieu dans les programmes scolaires, mais c'est en cultivant une façon semblable d'habiter le monde et en acceptant, au fond, des compromis politiques réciproques. À partir des années 1970, la France, du fait de sa politique d'immigration et de regroupement familial, s'ouvre à des populations exogènes. Populations exogènes dont certaines viennent du sud-est asiatique et cultivent elles aussi des revendications, des demandes de reconnaissance explicites, dont nous parlerons peut-être tout à l'heure. Et puis, il y a aussi des populations nombreuses venues du Maghreb qui auparavant constituaient une immigration de travail et qui désormais constituent une immigration d'installation, de peuplement, dit-on. Population du Maghreb, population de la Turquie, population de la zone subsaharienne. Souvent, ces populations sont, comme le note très justement Jürgen Habermas, demeurées attachées à des communautés traditionnelles d'interprétation. Et précisément parce qu'elles sont attachées à des communautés traditionnelles d'interprétation, déploient des revendications inédites qui vont monter en puissance dans les années 1980-1990. Certaines concernent la sphère immédiatement culturelle. Nous sommes au début des années 80, demande de mosquées, qui est en particulier dans les communes périphériques de la banlieue parisienne. D'autres concernent la vie quotidienne, prière au travail, habitudes alimentaires en particulier, et bientôt habitudes vestimentaires. Alors souvent, ces populations, après avoir essuyé, du fait de la crise économique, un échec d'intégration, ont embrassé des identités fortes sur le terrain religieux, ce qu'attestent à partir des années 1990, parmi d'autres exemples, les affaires du voile. C'est donc un premier élément, l'ouverture de la France à des flux démographiques inédits, typiques de la modernité seconde. Et puis à côté de ce premier élément, la globalisation, il y a le phénomène d'individualisation. La société française républicaine est encore, jusque dans les années 1950, une société du corps, une société de l'intégration. Et Carl Schmitt a tout à fait raison de dire que les catégories modernes, et j'ajouterais volontiers les catégories républicaines pour ce qui concerne la France, sont des catégories théologiques sécularisées. C'est-à-dire que nous vivons encore dans l'ordre républicain en étant marqués par cette idée que la nation, que l'État, doivent incarner la totalité du social en absorbant, en dépit de la reconnaissance d'un certain nombre de liberté publique, en absorbant la totalité des individualités. L'exemple typique, c'est le fameux transfert du « mourir pour la patrie », qui était, dans son origine, le « mourir pour la patrie céleste », grande phrase du Moyen-Âge, et qui devient, sous la plume des républicains, le « mourir pour la patrie terrestre », ce qu'exprimera en particulier la guerre de 1914-1918. Rien de tel à partir des années 1960-1970, où nous entrons en France comme ailleurs. Mais en France, le choc sera décisif pour comprendre l'évolution de notre laïcité dans un modèle marqué bien davantage contre le rationalisme englobant par les idées d'individualisation des valeurs, d'individualisation des conduites, d'individualisation des pratiques. Tout cela n'étant pas sans provoquer dans la société française, par une sorte de choc en retour, un climat d'incertitude qui marque aussi, si l'on suit Ulrich Beck, ce qui caractérise la deuxième modernité. Alors voyez que nous sommes ici dans une situation de dissonance cognitive entre le modèle de laïcité originelle et puis la morphologie sociale et éthique qui se met en place dans les années 1960-1970. Comment, nous, Français, allons-nous résoudre cette question posée par la dissonance cognitive entre un système juridique, d'une part, et un système axiologique qui a changé, d'autre part? Eh bien, nous allons le réduire, ce fossé, ce gap, précisément en réinventant notre laïcité. Nous avons conservé des textes de loi issus de la Troisième République, mais le plus souvent, nous ne les interprétons plus de la même manière. Et l'on peut dire, pour résumer les choses d'un point, et j'espère que cette idée-là va nous servir à penser la journée d'aujourd'hui, que le privé en France est devenu de plus en plus public et que le public en France est devenu de plus en plus privé. Ayant dit cela, je note, au fond, que la séparation stricte entre le privé et le public, entre les églises et l'État, se trouve aujourd'hui remise en cause, précisément pour répondre aux demandes de reconnaissance, pour faire face aussi au phénomène d'incertitude qui caractérise notre propre société de seconde modernité. Alors, essayons très rapidement, si vous voulez, de dire en deux mots ce qui vient caractériser notre laïcité contemporaine et où nous allons nous apercevoir précisément qu'elle n'est plus de même nature que celle du début de la Troisième République, année 1880-1905, et que précisément parce qu'elle a changé, elle permet aujourd'hui, au niveau local, que beaucoup d'entre nous ont étudié, de mettre en relation de plus en plus étroite les forces religieuses et les forces politiques. Pour dire les choses de deux mots, on peut dire que ce qui caractérise le nouveau régime de laïcité, ce qu'on appelle parfois la nouvelle laïcité française, c'est d'une part, premier élément, une large politique de reconnaissance. Politics of recognition, cette idée que désormais, au niveau central, le gouvernement, mais aussi au niveau local, les municipalités, s'entretiennent des relations de plus en plus étroites entre l'institution politique et l'institution religieuse. L'institution politique reconnaissant par toute une série de procédures la validité sociale du religieux dans la régulation morale de la société. Alors qu'auparavant, le religieux n'avait plus sa place dans la régulation morale de la société. Au niveau central, je pourrais multiplier les exemples de financement des cultes contre la loi de 1905. Je pourrais multiplier aussi les exemples de relations épistémiques entre la sphère religieuse et la sphère politique à travers le fait, par exemple, que la sphère politique consulte souvent dans la société française, contrairement à la tradition républicaine, les cultes pour un certain nombre de questions saillantes, touchant, par exemple, le problème de l'école, touchant, par exemple, le problème émergent de la bioéthique à partir des années 1980. Je dirais volontiers la même chose pour ce qui concerne le niveau local. Et nous avons, dans le cadre de ce laboratoire, mené une enquête autour l'enquête qui s'appelle l'enquête Norma, autour des politiques religieuses des municipalités, Et nous nous sommes aperçus, en variant l'échantillon, en variant les municipalités analysées, que, qu'elles soient de droite ou de gauche, les municipalités aujourd'hui n'hésitent plus à financer les cultes et à les consulter sur les questions de régulation morale de la société locale que ces municipalités ont à gérer. Nous avons donc affaire ici, si vous voulez, à des éléments tout à fait tangibles qui se traduisent le plus souvent au niveau des municipalités par l'installation de conseils de la laïcité ou de conseils des cultes qui se traduisent aussi par des effets de délégation dont nous parlerons peut-être aujourd'hui, où l'on voit les municipalités demander aux forces religieuses de s'occuper des politiques de logement, par exemple, de s'occuper des politiques d'aide humanitaire, de s'occuper des politiques d'aide à l'alphabétisation. Autant d'éléments qui traduisent, si vous voulez, ce point essentiel sur lequel je voulais insister, cette idée que nous sommes aujourd'hui en France dans le cadre d'une politique de la reconnaissance tout à fait inédite par rapport à ce qui existait sous la Troisième République. J'aurais voulu ajouter un deuxième point sur lequel je ne vais pas m'apesantir car j'ai déjà trop parlé, c'est que on aurait tort cependant de réduire la laïcité française d'aujourd'hui à n'être qu'une laïcité de reconnaissance et de dialogue. Un de nos excellents amis, Jean-Paul Villem, a intitulé l'un de ses livres « Vers une laïcité de reconnaissance et dialogue ». J'ajouterais volontiers laïcité de reconnaissance sans doute, mais aussi laïcité de surveillance. Et ce qui caractérise, me semble-t-il, la société française contemporaine, c'est que pour faire face à l'incertitude, pour faire face à l'explosion des demandes de reconnaissance, elle est amenée aussi à développer une politique de surveillance, de contrôle des cultes, qui n'existait pas du tout de la même manière sous la Troisième République. Il faudrait le développer au niveau du centre, et l'on montrerait qu'un certain nombre de législations correspondent tout à fait à cette hypothèse. Il faudrait le démontrer au niveau des municipalités. Pour ce qui concerne l'enquête que nous avons menée, l'enquête Norma, que nous avons menée dans les grandes municipalités françaises, il apparaît très clairement qu'une politique d'intégration s'est mise en place à Bordeaux, à Rennes, à Strasbourg, visant à soumettre les cultes à une sorte de logique implicite de l'autonomie libérale qui vient précisément les entraîner sur la voie d'une assimilation par la société française. J'en ai terminé en vous disant que l'ensemble de ces éléments nous amène à remettre en cause ce qu'on appelle ordinairement le nationalisme méthodologique. Je crois que l'idée même d'individualisation partagée par les sociétés européennes, l'idée même de globalisation, nous amène à considérer que sans doute il y a des traces de nos modèles nationaux, mais que nos modèles nationaux, et en tout cas c'est le cas pour la France, connaissent aujourd'hui la pression de l'extérieur et sont dans la situation, finalement, d'entrer dans des processus de convergence avec d'autres sociétés européennes. Voilà, je vous remercie.
Nous allons passer directement au premier panel. Donc, si je peux appeler, if I can call to the stage Rabbi Gluck, l'imam Bajrafil, Samia Atroubi, and Diana Pinto, as well as Annie Benvenist and Niloufer Gueul to commence the first